c'est important, mais c'est un prolongement. Et Stéphane est un vieux compagnon qui longtemps était resté invisible à nos côtés, du moins dans nos esprits, et qui aujourd'hui se manifeste à nos côtés, mais tout à fait naturellement. Je crois qu'entre un aborigène d'Australie qui, au cœur du désert, dit non au système politique, culturel, économique, dont il se sent profondément l'otage, et dont une partie de l'humanité seulement a décidé qu'il aurait valeur d'universel, ben je crois qu'entre un aborigène nu avec son pagne et sa vision, et Stéphane qui pratique le jeûne, qui a sa sveltesse éternelle et sa jeunesse éternelle, il y a une continuité tout à fait logique, et donc nous vivons cette continuité. Peut-être que Jean-Pierre veut ajouter quelque chose.
Pardonnez-moi de revenir sur la traduction. Ce que je voulais dire, c'est quand même, on est stupéfait de voir aujourd'hui, je vais vous donner des noms de petits pays qui vont traduire le livre, ce qui montre quand même le caractère universel.
Le Liechtenstein.
La Slovénie, tu vois, les petits pays, les grands pays, je veux dire. La Slovénie, la Serbie, la Croatie, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, les Pays-Bas, le Danemark, l'Islande, la Galicie, le Pays Basque, les Catalans, l'Espagne, etc., etc. Je m'interromps parce que je sais que
vous n'allez pas être content. Mais vous voyez que vous n'arrivez pas à vous contenir. Vous finissez toujours par avoir.
Voilà, et ça, c'est la première chose qui nous étonne, c'est la résonance européenne. Et la deuxième chose, et ça Stéphane y a été très sensible, et Christiane aussi, c'est que c'est un phénomène transgénérationnel. Ça, on peut le dire aujourd'hui, et on le voit, nous, dans le fait qu'un des lieux de vente du livre, c'est le net. C'est-à-dire que l'agitation en Tunisie, c'est Facebook, et bien les ventes du livre ont été considérablement impulsées par le net, par Amazon.fr, par Fnac.fr. Je vais vous donner le chiffre, je pourrais vous donner le chiffre à l'unité de près, c'est près de 400 000 personnes qui ont acheté par le net. Ce qui montre bien que c'est un phénomène transgénérationnel, que la jeunesse est très concernée, si on reçoit des lettres extraordinaires de lycéens, de lycéennes, et ça, tu le reçois aussi. Donc, un phénomène européen, peut-être plus européen, traduction, excusez-moi encore, au Japon, en Corée du Sud, tous les pays d'Amérique latine le traduisent.
Voilà, l'annonce, Christian.
Si je pouvais en raconter un petit peu plus, vous seriez occupé. Alors, vous voulez réagir à ce propos,
soyez libre, monsieur Sella.
Oui, peut-être pour dire attention, attention, un succès comme celui-là, sur quoi est-il fondé? Il pourrait être fondé, et ce serait très regrettable, sur le simple fait que personne n'est content et que quand on lui dit « faut vous indigner », il se dit « ben oui, bien sûr, parce que je ne suis pas content, je veux m'indigner ». Ça, c'est peut-être l'effet du titre. Il faut un tout petit peu se méfier de l'effet d'un titre. Quand un titre est lourd, comme la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, on peut se dire qui est-ce qui va commencer à comprendre ce que ce grand philosophe a à dire. Quand on lit « Indignez-vous », on se dit « Ah ben voilà, ça va me permettre tout de suite d'être plus à l'aise dans ce que je fais. » Et je suis très heureux que beaucoup de ceux qui ont réagi en me disant « Merci, vous nous libérez, vous nous permettez d'aller de l'avant, c'est très bien. » Mais il faut encore savoir comment aller de l'avant. Et après avoir lu avec à la fois raison et émotion, indignez-vous, il faut dire, mais à quoi est-ce que ça va mener? Et là, je voudrais que nous comprenions que ce livre tombe à un moment où beaucoup de femmes et d'hommes de notre pays et d'autres pays, je cite Suzanne Georges, je cite Edgar Morin, mais je peux citer Joseph Stiglitz, je peux citer Amartya Sen, et beaucoup d'autres grands esprits sont en train de nous proposer des voies à suivre. Alors, l'effet de ce petit livre, et s'il se répand à vitesse formidable, tant mieux, c'est d'inciter ceux qui l'ont lu à se dire « Ah mais alors il y a peut-être quelque chose à faire, et s'il y a quelque chose à faire, je vais m'informer sur sur ce qu'il y a à faire. Et pour ça, je serai obligé de lire des livres un peu plus longs, peut-être un peu plus difficiles à comprendre rapidement, mais essentiels pour aller d'abord.
Alors, on continue d'explorer cette notion d'alignation. Le débat qui en a résulté, enfin, de ce petit livre et les critiques qui nous sont faites, on dit que vous avez, alors vous êtes un ancien diplomate, vous avez été ambassadeur à la fin de votre carrière, mais vous avez commencé à New York à l'ONU, vous avez été à Genève, vous avez été en Asie, vous avez été en Afrique, vous avez beaucoup travaillé dans les cabinets. Une des critiques qui vous est faite, c'est que M. Hessel a l'indignation sélective et est parfois orienté toujours vers le même pays, Israël. Alors, que répondez-vous à cette critique d'une indignation sélective qui serait réservée à certaines causes et dont d'autres causes tout aussi justes seraient exclues?
Je dis que toutes les critiques que ce petit livre a suscité sont légitimes. Chacune a sa légitimité. Celle que vous venez de citer, c'est-à-dire des gens qui disent « Vous parlez beaucoup d'Israël, vous en dites beaucoup de mal, vous parlez de la Palestine, vous en dites beaucoup de bien, mais il y a bien d'autres choses qui se passent dans le monde. Qu'est-ce qui se passe au Soudan, au Darfour, qu'est-ce qui se passe au Congo, qu'est-ce qui se passe dans 36 pays d'Afrique? Ça, vous êtes indifférent à ça. » Eh bien, c'est évidemment une critique que je comprends, mais que je n'accepte pas. Car si j'ai choisi, dans un texte relativement court, 25 pages, d'en réserver deux à la situation à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, c'est parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance d'y faire un nombre considérable de voyages, de visites et de séjours, et que j'ai pu constater in vivo, constater tout à fait personnellement les raisons que nous avons de nous indigner de la façon dont le problème du Proche-Orient est traité, de nous indigner de ce que 60 ans après une mise en place nécessaire d'un grand pays, Israël, nous en sommes encore à n'avoir pas réussi à créer un État pour les Palestiniens, et que nous ne faisons rien de sérieux pour que ce combat aussi soit mené à son succès. Alors, c'est en effet le problème sur lequel il se trouve que j'ai été présent, ma femme et moi nous avons été présents au cours des 5 dernières années, des 8 dernières années. Naturellement, ça ne veut pas dire que c'est la seule région du monde où de l'indignation est nécessaire. Je pense qu'il faut élargir le message de ce petit texte. Si on le confine à dire est-ce qu'il a été juste, est-ce qu'il a été objectif, est-ce qu'il a été trop sévère pour Israël ou trop sévère pour le Hamas, ça ne porte qu'un intérêt très restreint. Oui, le problème du Proche-Orient est un de ceux que nous avons hâte de régler et de trouver une solution, et une solution négociée, et une solution acceptable pour les uns et les autres. C'est pas facile du tout, c'est même particulièrement difficile, et c'est aussi particulièrement important pour la poursuite de la bonne entente entre les grandes civilisations au début du 21e siècle. Donc je n'ai aucune mauvaise conscience à avoir parlé de Gaza. Mais si on me dit « vous ne parlez que de Gaza », là je trouve que c'est un reproche excessif. Je parle du monde entier, des grands problèmes du monde, parmi lesquels figure celui-là. Mais je reconnais quand même, il faut toujours reconnaître ce qui peut avoir choqué, je reconnais que prendre ce problème-là, le prendre à la façon dont il est pris actuellement par les défenseurs de la Palestine, dont je suis, et qui ont constitué un tribunal Bertrand Russell sur la Palestine, comme on l'avait fait il y a 30 ans sur le Vietnam. Eh bien, c'est parce que nous considérons que de même que la guerre au Vietnam a bloqué l'avance des accords entre civilisations il y a 30 ans, de même le problème du Proche-Orient bloque l'accord entre les civilisations qui est l'objectif à atteindre. Et à atteindre, je le dis clairement, je le répète, parce que sinon on va encore me dire que je suis pour la violence, et il faut le résoudre d'une façon non violente. C'est l'avenir qui nous est présenté par les grands exemples dont parle Sylvie, par Gandhi, par le Dalai Lama, par Martin Luther King et d'autres. Ce problème-là aussi, le problème du Proche-Orient, il faut lui trouver une solution non violente.